Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur l'histoire cachée d'Australie. Aujourd'hui, on va parler du plus célèbre monument du pays, le Sydney Opera House, l'Opéra de Sydney, qui a fêté en septembre dernier son 50e anniversaire. Alors pour en parler, nous retrouvons comme d'habitude l'historien Romain Fati. Bonjour.
Bonjour Grégory et bonjour aux auditeurs.
Alors je le disais, l'opéra vient de fêter son 50e anniversaire. L'inauguration, c'était très exactement le 20 octobre 1973, en présence de la reine Elisabeth II. La question que je me posais, c'était de savoir si les gens qui sont présents ce jour-là pour l'inauguration, à commencer par la reine, est-ce qu'ils ont déjà conscience que ce bâtiment qu'ils sont en train d'inaugurer, ça va devenir l'un des monuments les plus connus de la planète et plus que le symbole de la ville de Sydney, le symbole de tout un pays, l'Australie?
Alors, il est difficile de répondre à cette question, mais je vais vous répondre en deux temps. Le premier temps, c'est que les personnes qui prennent part à l'inauguration, les habitants de Sydney qui ont vu la construction de l'opéra, savent que c'est un bâtiment qui est immensément moderne, hein, avec son architecture expressionniste. Ça dépeint l'Australie sous des traits beaucoup plus modernes, parce que d'habitude, on pense à l'architecture coloniale, australienne, traditionnelle, britannique. Donc ça, la plupart des gens ont conscience, hein, que c'est un bâtiment extrêmement novateur et moderne. Et après, les goûts et les couleurs. Donc vous avez certaines de ces personnes qui trouvent que c'est absolument génial d'avoir un si beau bâtiment à Sydney, et d'autres qui trouvent que c'est une gageure en réalité, et que ce n'est pas fort joli. Un peu comme Beaubourg à Paris, par exemple, hein, qui a à l'époque déchaîné les passions.
Ouais.
Voilà. Donc, l'opéra, au début, hein, ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, parce que c'est une réelle icône nationale. Donc, il y a fort peu de personnes qui iraient critiquer ouvertement l'architecture de l'opéra. Mais à l'époque, ça fait débat. Ça fait débat, mais tout le monde s'accorde sur le fait que ce soit extrêmement moderne. Vous imaginez Sydney en 1973, avec ce magnifique, enfin, ce qu'on trouve magnifique aujourd'hui, opéra. Voilà, ça détonne.
Ouais. C'est vraiment l'image du vaisseau spatial qui atterrit dans un champ de moutons, quoi. Ouais. Alors, la construction de l'opéra, elle démarre à la fin des années 50. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble Circular Quay à cette époque? On sait aujourd'hui que c'est l'un des endroits de Sydney les plus connus, c'est celui en tout cas où tous les touristes se rendent à un moment ou à un autre au cours de leur séjour. Mais à l'époque, il n'y a pas encore d'opéra. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Est-ce que c'est très joli? Est-ce que c'est très fréquenté? Ou c'est juste une autre zone au bord de la mer comme il y en a plein à Sydney et que les gens s'y intéressent pas plus que ça?
Au risque de surprendre, hein, cet endroit où exactement la localisation aujourd'hui de l'opéra. À l'époque, il y avait un énorme hangar pour accueillir les trams de la ville de Sydney la nuit. Donc, une fois que le service des trams était fini, ça faisait partie d'un des entrepôts. Donc, c'était pas franchement joli. Et pour contextualiser ça, hein, pour ceux qui connaîtraient Sydney ou même pour ceux qui ne connaissent pas, l'opéra aujourd'hui est construit sur une avancée qui existait, mais qui a été encore un peu gagné sur la mer, qui s'appelle Bennelong Point. Bennelong est un leader aborigène de l'époque de la colonisation de Nouvelle-Galles du Sud. Et Bennelong Point se trouve entre Circular Quay et l'espace que l'on connaît comme le jardin botanique de Sydney, dans lequel, en fait, il y a la Government House, qui est la demeure du représentant de la reine d'Angleterre dans la colonie de Nouvelle-Galles du Sud, à savoir le gouverneur général de Nouvelle-Galles du Sud. Et à l'époque, si vous voulez, vous avez ce parc et cette magnifique demeure d'un côté, et puis de l'autre, Circular Quay, où vous avez des docks, hein, qui à l'époque ont déjà transitionné du commercial vers le touristique, où des grands bateaux peuvent accoster. Et surtout, vous avez un des transports, les moyens de transport les plus prisés de Sydney de l'époque, et toujours d'ailleurs, qui est le ferry. Donc Circular Quay, qui est juste à côté maintenant de l'opéra, c'est un point d'arrivée et de départ pour les très nombreux ferries de Sydney qui permettent aux habitants, s'ils ne veulent pas prendre le train souterrain ou leur voiture, de se déplacer dans les différentes baies et banlieues de Sydney. Donc à l'époque, en fait, on utilise une localisation qui est absolument centrale, hein, qui est vraiment au cœur de Sydney, et à son ancienne existence en tant que bâtiment public, entrepôt, quelque chose qui a vraiment l'air industriel et pas très joli, s'est remplacé par un opéra. Donc tout de suite, on donne un écrin. En fait, il est décidé que l'opéra ne serait pas au bord de la ville ou dans ses banlieues éloignées, mais absolument au cœur de la ville, à son cœur historique, à son cœur politique, et puis à son cœur, entre guillemets, visuel, hein, parce qu'on est sur un des endroits les plus jolis de la ville.
Alors, on va parler un peu plus tard, plus en détail de la construction, hein, qui a été un vrai défi à plusieurs niveaux, de la construction de cet opéra. Mais ce chantier, il est aussi associé à un certain nombre de tragédies. En 1960, il y a un petit garçon qui a été kidnappé et assassiné, et c'est directement lié à l'opéra de Sydney. Et en 1966, il y a une équipe de tournage de télévision qui, elle, s'est crashée alors que en hélicoptère, alors qu'ils étaient en train de survoler l'opéra pour en filmer l'avancée des travaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux faits divers très tristes?
Oui, alors on va revenir sur la construction après, hein. Mais à l'époque, une partie des travaux est financée par une loterie d'État. Donc les habitants de Nouvelle-Galles du Sud, et d'ailleurs, sont encouragés à participer à un loto géant dont les revenus sont redirigés vers la construction de l'opéra. Bon, pour qui dit loterie dit prix, il y en a plusieurs et le prix le plus important est, je crois, à l'époque de 100 000 livres, hein, qui est une somme très très importante, hein. Ce serait l'équivalent, je pense, de plusieurs millions
Ouais, comme l'euro
d'euros
million, quoi.
aujourd'hui.
Ouais.
Voilà,
Changement de
plus
vie
petit,
instantané.
voilà, c'est ça, un loto national. Et à l'époque, dans les années 60, il y a la regrettable habitude de publier le nom, voire la ville, voire l'adresse des gagnants. Alors, moyen rapide de se faire des amis. Mais également moyen de faire des envieux. Et il se trouve qu'à cette époque, un homme du nom de Stephen Bradley, qui est un nom anglicisé, pardon, parce qu'en réalité, c'est un migrant qui est né à Budapest avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce monsieur a de nombreux problèmes financiers. Il est toujours en train d'essayer de flairer le bon coup, en réalité le mauvais coup. Et là, il se dit jackpot, je vais enlever un des enfants de la famille Thorne, hein, qui est la famille gagnante. Et c'est absolument terrible, parce que le petit garçon est enlevé après l'école. Bradley fait quelques appels à Monsieur Thorne. En réalité, il parle à des agents de police. Et puis, ça se passe très mal. Et le petit garçon est tué. Il est tué. Il est retrouvé encore dans ses habits d'écolier. Probablement asphyxié, peut-être fracture du crâne. Mais en revanche, ce qui est établi, c'est que c'est Bradley, hein, puisqu'il y a un certain nombre de preuves qui s'accumulent. Il essaye de fuir l'Australie, il se fait extrader, puisqu'il est arrêté à l'étranger, ramené et emprisonné, je crois, à partir de 1961. Et puis il meurt en prison en 68. Donc c'est une histoire qui a réellement choqué parce que c'est pas un vol d'argent sur un adulte ou même une personne âgée, c'est un enlèvement d'enfant pour de l'argent qui résulte en la mort d'un enfant. Donc c'est tragique et ça entache réellement, vous savez, l'excitation et la beauté qu'il peut y avoir à construire un opéra auquel on a dédié un écrin qui lui ira bien. Donc c'est une entache profonde et il y en a une seconde qui est celle d'un crash d'hélicoptère que vous avez. Rappeler, donc quand on voit les images d'archives, hein, ça donne pas vraiment envie de monter dans l'hélicoptère. Ce sont les tout petits hélicoptères, les alouettes de l'époque. Et en réalité, vous avez ce qui est intéressant, ce qui est tristement intéressant, c'est que vous avez plusieurs vidéos, dont une qui a été tournée à l'intérieur au moment où en fait le moteur lâche et donc l'hélicoptère s'emporte, il tourne sur lui-même jusqu'à ce qu'il crache. Et en parallèle, vous avez une autre vidéo où on voit du sol ce qui se passe. Et ça a énormément choqué, puisque c'est un hélicoptère qui, ben, finalement, se crashe en ville, ce qui a conduit les autorités australiennes à revoir leur législation de survol des milieux urbains En grosso modo, en interdisant, enfin, en ayant des énormes restrictions sur tous les appareils qui n'ont qu'un moteur. Hein. Si vous
Ouais.
avez deux moteurs, s'il y en a un qui lâche, bon, au pire, vous pouvez vous sauver et puis surtout sauver les personnes qui sont en dessous. Donc voilà, une deuxième histoire qui a entaché la construction de l'opéra, mais en réalité, ce qui était le plus compliqué, peut-être que je vais vous laisser amorcer la prochaine question, c'est la construction.
Ouais. Et oui, parce qu'on a affaire donc à un bâtiment, vous l'avez dit, extrêmement novateur, qui emploie des méthodes de construction et des méthodes architecturales qu'on n'a jamais expérimentées jusqu'à présent. Donc tout ça est très excitant, mais ça veut dire aussi que ça va entraîner des retards assez importants, des surcoûts énormes, puisque, je le rappelle, donc l'opéra, les travaux commencent à la fin des années 50, il n'est inauguré qu'à la fin 73, plus de 10 ans de retard. On estime que le budget consacré à sa construction a été multiplié par 10 par rapport à son estimation initiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur les difficultés rencontrées sur ce chantier?
Oui, tout à fait. Alors, je vais reprendre par le début. La compétition, elle est lancée par le gouvernement Cahill de Nouvelle-Galles du Sud en 1955. À l'époque, ils reçoivent un peu plus de 230, 233 projets, hein, design, et le gagnant est annoncé en 1957. Seulement, quand le gagnant, Jørn Utzon, qui est danois, est annoncé, eh bien, le projet qu'il a soumis, il s'agit de quelques croquis, pardon, ils sont vraiment beau, hein, mais c'est pas un projet architectural avancé avec des plans très établis. Donc, on se lance sur un projet sans pouvoir budgéter ce qu'il va coûter, hein, et donc effectivement, il coûtera bien plus cher, 10 fois plus cher que ce qui était prévu. Et puis, il va durer beaucoup plus longtemps parce que un certain nombre de défis techniques se posent. Il y a trois phases, grosso modo, de construction dans l'opéra. Il y a celle de son podium, hein, la structure qui reçoit l'opéra. Il y a les énormes coquilles qui recouvrent l'opéra et que l'on connaît. Et puis, il y a l'intérieur, les salles. Bon, le gouvernement, très vite, a voulu que les choses avancent rapidement. Et on sait que généralement, quand un gouvernement se mêle de projets publics comme ça, enfin, pour l'architecture, bon, ça ne fonctionne pas toujours. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que pour faire avancer les travaux, on a construit des colonnes qui devaient recevoir les coquilles de l'opéra, hein, son toit, avant que ces dernières ne soient construites. Si bien que quand elles ont été livrées, elles étaient beaucoup plus imposantes, grandes et lourdes que prévu, et il a fallu refaire ces colonnes. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres des difficultés qui ont été rencontrées. Ces difficultés, elles n'ont pas nécessairement trait comment dirais-je, à des ratés de l'architecte, hein, pas du tout. C'est simplement que c'est un projet absolument faramineux, qu'il y a des difficultés techniques, hein, il faut élargir le podium, donc grignoter un petit peu sur la mer, construire dans un endroit où la météo peut être parfois un peu gênante. Et puis, par ailleurs, les coquilles de l'opéra, hein, qui sont absolument magnifiques et qui, entre elles, partagent plus d'un million de carreaux, hein,
De
de carreaux
petites
de
tuiles, ouais.
carrelage, en deux couleurs, en crème et en blanc.
Qui viennent de Suède, ouais.
Qui viennent de Suède, puisqu'à l'époque, on ne savait pas vraiment, l'industrie australienne n'était pas aussi avancée qu'elle l'est aujourd'hui. Les coquilles de l'opéra doivent être construites d'une façon qui serait le plus économique possible, et il est décidé qu'au lieu de construire toutes ces coquilles dans un moule séparé, les quatre plus grandes seraient construites à partir d'un énorme moule et puis découpées à l'intérieur pour éviter qu'il y ait trop de chutes. Donc ce sont des structures absolument imposantes et il a fallu à l'époque recourir aux premiers ordinateurs pour architectes pour essayer d'optimiser le design. Donc ces coquilles gigantesques ont été dessinées, redessinées, re-redessinées un certain nombre de fois. Un peu comme quand on étudie l'aérodynamisme d'un avion, on retravaille les ailes. Donc voilà, ça ne s'est pas fait en un jour, hein, ça s'est même fait entre 1959 et 1973, avec une livraison 10 ans plus tard, au début, 4 ans étaient prévus pour le chantier, ça a mis 14 ans. Et puis, de façon beaucoup plus importante, l'estimation qui avait été donnée au début s'est révélée être 10 fois, enfin, même un peu plus que ça, inférieure au coût total. À l'époque, quand on ferme le carnet de chèques, on en est à plus de 102 millions de dollars, ce qui aujourd'hui représenterait, en dollars australiens de 2023, plus d'un milliard de dollars. Donc effectivement, certains événements, on les a rappelés, le meurtre, l'assassinat de ce petit garçon, Thorne, et puis le crash d'hélicoptère, et puis les délais, et puis les coûts, peuvent ternir l'image de l'opéra. Mais en réalité, toutes ces choses-là, on les oublie quand on est devant l'opéra. Hein. On se projette souvent sur le présent, et le présent, c'est que cet opéra est une icône absolue de l'Australie, au même titre que Uluru, l'Ayers Rock, au même titre que les kangourous, les koalas. Donc, c'est un projet qui s'est payé et repayé de nombreuses fois.
Pour revenir à l'Opéra de Sydney, vous le disiez, enfin, le bâtiment le plus connu du pays de très 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 loin. Il a été intégré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Jørn Utzon a lui reçu en 2003 pour cet opéra le prix Pritzker d'architecture, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel pour les architectes. Et donc pourtant, il l'a jamais vu terminé parce que c'est pas les difficultés rencontrées au cours de la construction qui lui ont le plus posé problème, mais les politiciens de Nouvelle-Galles du Sud avec qui il s'entendait pas particulièrement bien. À tel point d'ailleurs que même 40 ans après l'inauguration de son opéra, il n'est jamais revenu pour le voir.
Oui, tout à fait. C'est une histoire qui est difficile en réalité, parce que vous avez d'un côté un génie, hein, on peut le dire très clairement, Hudson, l'architecte, et puis de l'autre côté, au tout début, vous avez un gouvernement qui soutient, hein, la construction de l'opéra puisqu'il l'amorce, mais il y a changement de gouvernement. Et là, Hudson se retrouve devant un cabinet de ministres qui ne soutiennent pas le projet et qui surtout s'indignent par rapport à l'augmentation des coûts du projet, qui ne sont plus financés par cette loterie, mais dont on a parlé, mais qui commencent réellement à coûter de l'argent aux contribuables de Nouvelle-Galles du Sud. Et en l'occurrence, l'interlocuteur privilégié de Hudson s'appelle Hughes, qui est le ministre des Travaux publics de Nouvelle-Galles du Sud. Et alors, c'est un philistin complet, hein. Pour lui, l'opéra, voilà, c'est pas du tout une priorité. Et en fait, vous avez quelqu'un un architecte érudit, cultivé, qui se retrouve devant une sorte de cow-boy qui a du mal à comprendre le pourquoi du comment. Si bien que Hudson, à plusieurs reprises, menace de démissionner. Et après de très nombreux impayés, non seulement pour lui, hein, mais aussi pour son équipe, et c'est ça qui le gêne énormément, claque la porte. Dis-je, voilà, je démissionne, finissez-le tout seul, votre opéra. Donc, Hudson est là depuis le début du projet, et il claque la porte en 1966, hein, donc 6 ans avant, un peu plus que la moitié de la construction, donc il a déjà fait 8 ans, mais il en reste encore 6. Et la responsabilité de la fin de la construction tombe sur les épaules d'un jeune architecte australien, Peter Hall, hein, qui finit le travail. Mais les interférences politiques ont été telles que l'architecte principal, enfin l'idée vient de lui, les dessins viennent de lui, quitte la porte et ne revient jamais. Hein. Il aurait eu de très nombreuses opportunités de revenir en Australie, même pour une visite à caractère privé, hein, ne serait-ce que voir son œuvre, aller se balader. Je trouve que le signal est exceptionnellement fort, hein. Quand vous avez une des œuvres majeures du XXe siècle et que vous n'allez pas la voir, il n'a pas renié l'opéra, hein, pas du tout, puisque dans les années 90, le conseil d'administration l'invite à reproposer quelques esquisses pour des nouveaux aménagements. Donc il retravaille. Mais il met un point d'orgue à ne plus revenir en Australie du fait de son expérience avec les Australiens. Et je pense que voilà, si vous avez des personnels de Naval Group qui nous écoutent, peut-être que ça leur Peut-être que ça leur parlera. Voilà, donc il s'agit d'un projet un peu, enfin je fais de l'humour, mais à la fois je n'en fais pas. C'est assez typique des projets de construction gigantesques, à la fois en Australie et ailleurs, mais c'est quand même particulièrement typique de certains projets australiens qui mettent beaucoup plus de temps, qui coûtent beaucoup plus cher et qui parfois tout simplement sont abandonnés. Hein. Et ça représente une culture de travail qui est aujourd'hui représenté dans une série télévisée qui s'appelle Utopia, et qui est absolument géniale. Si vous travaillez dans le monde de l'entreprise en Australie, vous aurez peut-être beaucoup de mal à regarder cette série parce que elle fait grincer. Mais si vous voulez découvrir le monde de l'entreprise australienne caricaturé, mais seulement légèrement, ça vaut vraiment le coup de regarder cette série.
Je la recommande chaudement aussi. Je crois qu'il y a 5 saisons au total. Il me semble que la dernière est sortie il y a quelques mois. Elles sont toutes visionnables sur iView, donc la plateforme de streaming de ABC. Et c'est très drôle. Pour revenir sur l'opéra, donc, il vient de fêter ses 50 ans. Et ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que le feu d'artifice du Nouvel An de Sydney, qui est peut-être aussi connu que l'opéra, il est un tout petit peu plus jeune, puisque la première fois que ça a été célébré de cette manière, c'était en 1976. Et la question pas du tout historique que je me posais, c'est que on a d'un côté ces feux d'artifice qui sont vus chaque année par plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde. Il y a toujours des images de différentes villes à travers le monde qui fêtent le Nouvel An, mais Sydney, c'est l'incontournable parce que ce serait le premier pays qui passe le Nouvel An, même si c'est pas tout à fait le cas. Voilà, donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a 1 milliard de téléspectateurs pour voir le feu d'artifice du Nouvel An? Parce que dans les images, on a évidemment le Harbour Bridge qui est magnifique, mais aussi l'opéra que tout le monde connaît. Ou est-ce que l'opéra est aussi connu à travers le monde parce qu'on le voit tous les ans à la télévision au moment du passage du Nouvel An? Bref, c'est un peu la question de l'œuf et de la poule, quoi.
Alors, les deux, mon capitaine, oui, effectivement. Il y a plusieurs choses, hein. Déjà, il y a l'extase que certains ressentent par rapport à voir Noël, enfin, en l'occurrence, le Nouvel An, en été. Hein. Donc, vous avez de très nombreuses personnes dans l'hémisphère nord qui visionnent ces images parce que passer le Nouvel An, non pas sous la neige, mais à la plage, il y a un attrait, si vous voulez. C'est assez exotique. Et puis par ailleurs, il y a le fait que effectivement cet opéra soit devenu une réelle icône non seulement de l'Australie, mais une icône de l'architecture mondiale au même titre que le Taj Mahal ou la Tour Eiffel ou les pyramides du Caire. Voilà, c'est visuellement un patrimoine qui est connu immédiatement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dire à vos téléspectateurs ça se passe à Sydney. Vous montrez l'opéra et tout de suite on sait que on est en Australie. Et donc effectivement l'écrin qui a été choisi pour recevoir l'opéra sur Bennelong Point n'est pas un hasard parce que c'est à côté du Sydney Harbour Bridge qui est moins connu des non-résidents australiens mais qui est un succès industriel et architectural absolument monumental qui relie deux rives de Sydney. Et si un jour vous vous rendez à Sydney, je vous encourage vraiment à louer un canoë-kayak et à faire du kayak, tout simplement, sous ce pont. Vous y avez le droit, faites attention aux ferries. Et la hauteur entre l'eau et le plancher du pont est absolument spectaculaire. C'est-à-dire que l'opéra disparaît tellement il est petit par rapport à l'ampleur de ce pont. Et c'est depuis ce pont et depuis l'eau également que les feux sont tirés. Avec aussi d'autres parfois tirés près de l'opéra. Et en fait, ça forme un tout. Je pense que c'est. Pourtant, le pont a été construit en 1932. Hein. Tout ça est indissociable. Le pont, Circular Quay, et puis bien évidemment, The Opera House, qui sont voilà, des icônes de Sydney. Et aujourd'hui, cet opéra est visité par plus de 8 millions de touristes. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais c'est rien comparé au Mont-Saint-Michel ou au Louvre. Oui, mais la France est le pays le plus visité du monde. L'Australie, vous êtes en bout de course. Hein. Après, il y a les pingouins. Donc, il y a moins de touristes de fait. Et donc, 8 millions, c'est quand même assez exceptionnel pour un monument. Et puis, plus de 350 000 visites guidées. Alors, si un jour vous vous rendez à Sydney, je vous encourage réellement à visiter l'opéra. Alors, c'est un de ces, une de ses œuvres qui est quand même plus belle de loin que quand on est à 15 ou 20 cm parce qu'on voit tous les petits défauts. Mais vous n'avez pas besoin d'un billet d'opéra ou d'un billet de concert ou de ballet pour vous y rendre. Il y a un restaurant, il y a aussi, vous pouvez prendre un verre à l'opéra, et ça vaut vraiment le coup. C'est un spectacle assez magique parce que vous voyez depuis l'opéra ce pont dont on vient de parler qui est absolument exceptionnel. Et si vous vous sentez une âme de personne qui fait de l'escalade, vous pouvez escalader le pont. Alors pas tout seul, hein, il faut acheter un billet. Et puis, vous verrez le panorama de l'opéra depuis le pont. Donc les deux se complémentent très bien finalement.
Merci beaucoup, Romain Fati, pour toutes ces explications. C'était un peu long, mais très intéressant. Et puis, c'est l'Opéra de Sydney, il le mérite bien après tout. Je précise également qu'au début de notre entretien, on a mentionné l'endroit où se trouve l'Opéra, Bennelong Point. Si vous voulez en savoir plus sur qui était ce Bennelong, qui était un petit peu le leader de la résistance aborigène au tout début de la colonisation, eh bien, on a consacré un épisode de notre série sur ce sujet. Vous pouvez la retrouver en allant sur le fil de la série d'Histoires cachées d'Australie. Et puis, Romain Fati, donc encore une fois, merci pour tout. À très vite pour un nouvel épisode et bonne fin de semaine à tous. Bonne fin d'année, bonne fête aussi, tant qu'on y est.
Bonne fête à tous, merci, bonne journée.